Yannick Jadot, candidat des écologistes à l'élection présidentielle.
Quelle est votre position concernant le nucléaire et les gaz de schiste ?
Les écologistes, depuis qu'ils sont nés, peut-être même avant, ont toujours combattu le nucléaire et les gaz de schiste, pour des raisons assez différentes. Le nucléaire, c'est à la fois une énergie extrêmement dangereuse. On est à presque 6 ans de Fukushima. On vient de déceler d'ailleurs un niveau de radioactivité toujours sur les réacteurs où si vous êtes exposé humainement, vous mourrez immédiatement. Donc cette catastrophe est toujours en cours. Évidemment, on veut l'éviter au maximum en France. Et puis, ça va au-delà, je dirais même, de la seule question du risque du nucléaire ou de cette dette de centaines de milliers d'années que nous laissons avec les déchets. C'est une conception de l'énergie. Il y a un vieux modèle qui se défend avec acharnement pour conserver la rente, le partage du business, la situation d'oligopole, d'opacité. Et si on rajoute les énergies fossiles, comme les gaz de schiste, c'est quand même beaucoup autour aussi de non seulement l'opacité, mais quand on pense au pétrole, on pense évidemment aussi aux dictatures. Et le nouveau modèle qui émerge et que nous soutenons, c'est un modèle qui remplace la rente par le partage, parce que ce sont les énergies renouvelables, parce que c'est décentralisé, parce que chacun peut s'approprier cette technologie, construire ensemble, partager. Ça remplace l'opacité par la transparence, ça remplace les dictatures par la démocratie, et ça remplace le dérèglement climatique et le risque nucléaire par la convivialité. Donc évidemment, contre le nucléaire, nous prévoyons d'en sortir en 20 ans, contre les gaz de schiste qui sont une autre énergie fossile particulièrement sale.
Alors justement, comment assurer cette transition énergétique et quel est, pour vous, le mix énergétique qu'il faudrait pour la France ?
Mon projet, c'est 100% renouvelable d'ici 2050. Ça s'aligne sur le scénario négawatt, c'est un scénario d'ailleurs que nous défendons aussi au niveau européen. Ça veut dire réduire de moitié notre consommation d'énergie. Ça veut dire aussi, d'ici 2020, rattraper notre objectif sur les énergies renouvelables. On devrait être à 23% en 2020, mais du fait de notre obsession nucléaire dans ce pays, on a délaissé les énergies renouvelables. Donc on est à moins de 15, il faut aller à 23% en 2020. Donc là, on ne fera pas mieux que l'objectif officiel européen, mais c'est de monter à 40% en 2030 jusqu'à 100% en 2050. C'est un enjeu absolument essentiel si on veut être sur la trajectoire d'un réchauffement climatique très en dessous de 2 degrés, comme il a été adopté dans l'accord de Paris, à la COP21. Mais c'est aussi, je l'ai dit, un enjeu absolument essentiel, géopolitique. Être 100% renouvelable, c'est arrêter d'être dépendant et souvent complaisant vis-à-vis de la Russie et de sa dictature, vis-à-vis des pétromonarchies du Golfe et leur dictature, vis-à-vis du Niger, de son uranium, vis-à-vis de l'Algérie ou vis-à-vis du Gabon. Et on voit bien à quel point notre politique extérieure est totalement gangrénée par notre addiction aux énergies fossiles ou à l'uranium et par notre ébriété énergétique. Mais c'est surtout un enjeu de relocalisation de l'économie. Ce sont beaucoup d'emplois sédentaires, non délocalisables, qui font sens. Et puis, c'est une réappropriation citoyenne d'un enjeu majeur de nos vies, qui est l'énergie.
Alors justement, centralisation, décentralisation, relocalisation, quelle gouvernance vous souhaiteriez mettre en place par rapport à cette politique énergétique ?
Je suis désolé si à chaque fois j'anticipe la question suivante. Pourtant, je ne regarde pas votre papier, qui est tout gribouillé pour les auditeurs. À la fois, il faut une ambition très forte à l'échelle européenne. En 2008, l'échelle européenne a été la véritable échelle de planification de la transition énergétique. On avait ce qu'on appelle le paquet climat-énergie, 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 20% d'efficacité, 20% de renouvelables à l'horizon 2020. Et derrière, il y avait une directive sur l'efficacité des bâtiments, une directive sur l'efficacité énergétique, un règlement sur le CO2 des voitures, une directive sur les énergies renouvelables, tout ce qui concernait l'éco-conception. Donc ça a été une véritable planification. Mais quelque part, ça a trop bien marché, ce qui fait qu'il y a eu un retour de bâton des grands énergéticiens qui, pour le paquet climat énergie 2030, ont saboté l'ambition sur les énergies renouvelables. On est simplement à 27% sans que ce soit contraignant, sans qu'il y ait d'objectif par pays, et à seulement 27-30% sur l'efficacité, alors que tout le monde convient qu'on pourrait être à 40%. Et donc, là, on est justement dans cette bascule où le vieux modèle, avec le soutien des États, la France défend son nucléaire, la Grande-Bretagne aussi, la Pologne son charbon, on a une résistance au monde qui vient. Ce monde, c'est, je l'ai dit, c'est beaucoup de décentralisation. C'est 4 piliers, la transition énergétique. C'est la fin du gaspillage, donc c'est des économies de la sobriété et de l'efficacité. C'est des renouvelables, évidemment, et c'est des réseaux. On ne va pas construire des surcapacités à tous les étages, il faut des réseaux. Et à partir du moment où on fait ça, et puis le quatrième pilier, c'est accompagner la transition, notamment avec les salariés. Donc un des éléments que je propose pour nous assurer que cette transition aille bien, parce qu'on voit bien avec le cas avec Fessenheim, avec les centrales charbon, la résistance des salariés qui ont peur de perdre un emploi, évidemment, c'est logique, légitime. Mais il faut ce que j'appelle des contrats territoriaux de transition écologique où sur 10 ans, les entreprises, les salariés, les ONG, les collectivités et l'État négocient un programme de transition vers une économie 100% durable. Donc on accompagne, on utilise tous les outils de la politique publique, les marchés publics, la fiscalité écologique, la formation, tout ça, pour accompagner les transitions économiques et coller à cette transition économique le programme d'accompagnement, de formation, de conversion des salariés. L'idée, c'est aucun salarié au bord de la route. Et je crois que c'est un verrou auquel nous, les écologistes, nous devons être extrêmement soucieux aujourd'hui dans un monde où il y a une telle peur du changement, où il y a une telle peur du déclassement. Rassurer les salariés sur le fait qu'ils seront aussi les bénéficiaires de la transition énergétique ou écologique en général, c'est un point absolument essentiel. Avec d'autres types de mesures, ce que je propose sur le quinquennat, par exemple, c'est une installation renouvelable dans chaque quartier ou dans chaque commune rurale. L'idée étant que ce soit des projets participatifs qui impliquent les citoyennes et les citoyens à un projet local pour leur montrer c'est quoi les énergies renouvelables et que ce soit y compris construit avec des coopératives. Et puis l'idée que chaque projet d'énergie renouvelable doit être ouvert à 25% de participation des citoyens. Un peu comme ça se fait aujourd'hui en Belgique, et je crois qu'aux Pays-Bas, c'est 20%. Mais c'est essentiel d'associer les populations locales aux projets d'énergie renouvelable.
Justement, cette pédagogie, elle est indispensable ?
Elle est indispensable parce que finalement, on est dans une situation aujourd'hui où la révolution économique a fait son travail. Les énergies renouvelables, notamment l'éolien terrestre, et on voit maintenant certains projets d'éolien offshore. Évidemment, le solaire et particulièrement le photovoltaïque sont des énergies qui sont plus compétitives que les énergies fossiles et beaucoup plus compétitives que le nucléaire. Donc la révolution économique, elle est là, elle nous sert. Ça va continuer en plus, ça va vraiment, le soleil, le vent, l'eau, toutes ces énergies sont évidemment cadeaux. Mais si en plus les matériaux, enfin les outils pour la récupérer, la transformer en électricité ou en biogaz, tout ça sont bon. Hein. Donc c'est essentiel. Mais il faut évidemment commencer, y compris dès l'école, sur des projets interdisciplinaires, à discuter de la question environnementale, discuter de la question du climat, discuter de la question des énergies, des transports, de l'alimentation. On voit à travers les enfants à quel point toutes les mises en place de cantines bio sont une pédagogie extraordinaire pour les enfants, mais aussi pour les parents, parce que les enfants éduquent leurs parents à mieux consommer, y compris dans leur acte d'achat dans les magasins. Donc il faut faire la même chose sur les énergies, raconter l'histoire des énergies, qui est une histoire passionnante de nos sociétés, et dire à quel point C'est un peu comme le numérique quand il y a eu le peer-to-peer. Vous savez, les grosses boîtes se sont défendues. Le vieux monde a voulu sanctionner le partage de fichiers. Mais ça a été balayé par la révolution technologique. Et là, on a une possibilité de rendre les citoyennes et les citoyens autonomes et en plus de construire du partage avec d'autres à l'échelle locale. C'est passionnant.
Un mot de la recherche. Selon vous, quelles priorités faut-il mettre dans les questions dans le secteur énergétique?
Alors, on a longtemps, avec l'histoire du pétrole notamment, la question du charbon, la question de l'énergie, c'est le voyage dans l'espace. Avec l'électricité renouvelable, aujourd'hui, la question, c'est le voyage dans le temps. Il y a évidemment la question du stockage. On voit bien que ça va se développer. Moi, je suis extrêmement confiant. On n'a pas aujourd'hui de grands outils de stockage. On voit ce qu'on fait avec l'eau. On voit ce qu'on fait avec un certain nombre de choses, les progrès sur les batteries ou la transformation d'électricité en hydrogène. Tout ça sont des processus qui vont énormément se développer avec un rendement très, très fort. Mais il faut de la recherche. Notre pays, d'ailleurs, est en retard du point de vue de la recherche de manière générale. Hein, donc il faut renforcer la recherche, surtout que ce soit l'INES sur l'énergie solaire, le CEA, il y en a des chercheurs d'une compétence absolument extraordinaire. Et aussi, attention, la recherche, c'est pas simplement de l'invention. Il faut que ça aille jusqu'au stade industriel. Et ça, aujourd'hui, ça manque dans notre pays. Je prendrai que l'exemple de la Soitec, l'entreprise de semi-conducteurs, enfin qui produit des matières pour les semi-conducteurs à Grenoble. Cette entreprise a le record du monde du rendement en photovoltaïque, mais elle s'est désengagée du photovoltaïque, y compris parce qu'il n'y a pas de soutien en France pour faire ce genre de choses. Donc ils sont très bons dans les semi-conducteurs, mais ils n'ont pas utilisé leur savoir sur les choses comme ça. Alors ça, c'est toute la partie recherche sur les éco-matériaux, sur... Mais attention, ce qui est essentiel aussi, c'est de poursuivre la recherche en matière d'innovation sociale, en matière d'innovation financière, pour accompagner toute cette transition, parce qu'on a besoin qu'elle aille très très vite. Et si la question du financement, par exemple, commence à être à peu près résolue sur la question des énergies renouvelables, du fait de leur compétitivité, on sait que sur tout ce que sont les programmes d'efficacité, d'économie d'énergie dans les transports, dans le bâtiment, il y a là encore à innover du point de vue des bons outils de financement pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc c'est une recherche à la fois technologique, une recherche technique, une recherche sociale et une recherche démocratique.